des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Chers internautes, comme vous le savez, nous célébrons cette année les 400 ans du Québec et nous vous proposons sur Canal Académie une série d'émissions sur ce thème. Aujourd'hui, je reçois dans Parcours une grande personnalité québécoise. Elle a joué un rôle très important dans les relations franco-québécoises et aussi internationales. Louise Beaudoin, bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Donc par ordre chronologique, quelques-unes de vos fonctions importantes, directrice des affaires françaises en 1981, déléguée générale du Québec à Paris en 1984, ministre de la Culture et des Communications en 1995, ministre des Relations Internationales en 1998. Bon, j'accentue le phénomène sur les relations franco-québécoises. Je signale aussi que vous êtes commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur. Enfin, j'en passe. Mais quel parcours, Madame la Ministre ?
Oui, maintenant j'enseigne à l'Université de Montréal. Je trouve que c'est une belle fin de carrière après avoir fait ce que vous avez évoqué, que de me retrouver devant des étudiants et essayer de transmettre un peu de ce que j'ai, disons, appris et, disons, de ce que j'ai compris.
Vous êtes redevenue citoyenne,
oui.
Professeure.
Oui.
Est-ce que vous avez envie de faire passer des messages aujourd'hui à vos élèves?
Ah oui, parce que j'enseigne, bien sûr, au département de sciences politiques, à la maîtrise, et j'enseigne un cours, entre autres, sur la francophonie. Et je suis très contente parce que au Québec et au Canada, ce n'est pas une matière encore d'enseignement et de recherche. Ça commence à le devenir. Et là-dessus, je pense que je joue un rôle de pionnière. Et j'en suis très heureuse, oui.
Quel est votre moteur dans la vie? Qu'est-ce qui vous anime pour avoir autant de fonctions politiques?
Moi, ce qui m'animait depuis le départ, depuis le tout début, j'étais étudiante en histoire à l'Université Laval à Québec, donc à la fin des années 60, et je suis venue étudier ici aussi à Paris, à Sciences Po. Ça a toujours été, dans le fond, à partir du moment où j'ai compris que le Québec francophone serait toujours fragile, que c'était inévitable que ce soit toujours fragile, que cette francophonie nord-américaine qui est concentrée au Québec, pas uniquement, mais enfin qui l'essentiel est concentré au Québec. 90% par exemple des francophones du Canada habitent le Québec. Alors, c'est ce destin de francophone d'Amérique qui m'a intéressée, interpellée depuis le début, depuis le départ, et même quand j'étais jeune finalement. C'est là-dessus que j'ai voulu tenter d'intervenir et puis tenter d'influencer donc le cours des événements. Oui.
Donc, vous faites des études à Paris.
Oui.
Quand est-ce que vous revenez par la suite pour y travailler?
J'y suis revenue pour travailler en 83, vous avez dit en effet qu'en 83-85, comme déléguée générale du Québec en France. C'est déjà assez particulier parce que cette délégation générale a, depuis 1961, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu comme tel, donc bien avant son fameux « Vive le Québec libre » qui était en 1967 sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Mais dès 1961, il a voulu donner au Québec un statut, je dirais, quasi diplomatique et en France. Alors, c'était extrêmement important pour les Québécois que d'être représentés, en quelque sorte, par un ambassadeur ou une ambassadrice. Alors, j'ai été la première femme à le faire. Il n'y en a pas eu d'autres, d'ailleurs, depuis, ce qui veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Mais cette présence québécoise en France au plus haut niveau via une délégation générale nous donne beaucoup de possibilités de rayonner donc en France parce que la coopération franco-québécoise elle est unique peut-être en son genre dans le monde. Elle est extrêmement productive, étroite, intense, humainement parlant là.
Elle en est où aujourd'hui? Parce que depuis 10 ans, est-ce qu'elle a évolué positivement? Est-ce que beaucoup d'étudiants peuvent partir au Québec? Est-ce qu'on peut aller travailler facilement au Québec?
Les étudiants, il y en a beaucoup. Et on en est très content. Parmi les étudiants, c'est le contingent d'étudiants étrangers au Québec qui est le plus fort, c'est le contingent français. Il y a, dit-on, environ 6000 étudiants français au Québec. En tout cas, à l'Université de Montréal, là, moi, j'en vois beaucoup. Mais il y en a dans les universités anglophones du Québec aussi, à McGill, à Concordia. Il y en a à Québec, à l'Université Laval. Mais 6000, le plus fort contingent d'étudiants étrangers au Québec, ce sont les étudiants français. Dans la région Rhône-Alpes, où moi, j'enseigne tous les ans à Lyon, ils sont certainement 400, 500 étudiants qui, par année... Alors, ils viennent beaucoup au HEC, ils viennent faire des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs à Polytechnique. Alors, il y a énormément, mais c'est l'inverse qui m'inquiète, c'est qu'il y a de moins en moins d'étudiants québécois qui viennent étudier en France. Et ça, moi, quand j'étudiais ici, on était quelques milliers. Et maintenant, s'il y en a 400 ou 500, ça doit être à peu près tout. Alors là, je dirais que les Français, la France devrait s'en occuper davantage et faire en sorte que les étudiants québécois aient le goût de revenir étudier en France. Ils vont plus spontanément étudier aux États-Unis. C'est à côté, c'est vrai, les universités américaines sont de grandes universités, de bonnes universités, mais ici aussi, là, je comprends qu'il y a des difficultés, comme dans tous les pays, dans nos systèmes d'éducation, d'enseignement supérieur, mais pas au point que ça empêche, en quelque sorte, des étudiants québécois d'y venir. Et ça, j'espère que la réciprocité sera de plus en plus présente là, dans ce secteur-là, parce que c'est nécessaire que nous aussi, on ait des Québécois donc qui reviennent au Québec ensuite, qui étudient en France et qui aiment la France. C'est eux, ensuite, qui animeront la relation France-Québec.
Et à ce propos, comment vit-on l'américanisation au Québec?
Mais disons qu'on est des Américains, alors l'américanisation, on la vit naturellement. Nous sommes des Nord-Américains qui parlons français. Finalement, c'est peut-être la meilleure définition d'un Québécois.
La culture des États-Unis, ouais. Je veux dire.
Bon, alors la culture des États-Unis, eh bien, on résiste. Hein? Je pense qu'on peut dire que nous sommes des résistants culturels. Si on regarde nos parts de marché dans plusieurs secteurs, dans les industries culturelles, enfin, je pense aux livres, je pense à la chanson, beaucoup. Je pense au cinéma. Aussi, écoutez, par rapport aux pays européens, peut-être pas la France, parce que la France, son cinéma est très présent dans ses salles, et puis les gens y vont, là, je sais pas, les Ch'tis, moi, je l'ai pas vu, là, puis j'ai pas vu Astérix non plus, mais il y a tous les ans beaucoup de films français, puis des films d'auteurs, il y a une grande diversification, mais chez nous, c'est la même chose. Il y a des films grand public qui sont très populaires, mais on doit faire autour, nous, de, je dirais, entre 15 et 20% de nos parts de marché, ce qui est 100 fois mieux que l'Italie, que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne, etc. Vous faites normalement autour de 30, 35% de vos parts de marché avec votre propre cinéma. Ce qui en laisse quand même assez aux Américains, là. Il faut pas se faire d'illusions. Mais dans tous les secteurs, on est présent sur notre propre marché. Et je pense que ça, c'est fondamental, c'est existentiel. Si on veut vivre notre culture, il faut d'abord la consommer, si j'ose employer ce mot-là.
Alors, vous passez beaucoup de temps en France pour les études, après pour le travail. Comment vous intégrez à la société française? Comment vous vivez? Vous n'avez pas le même accent, vous n'avez pas forcément les mêmes, n'employez pas forcément les mêmes mots, la même culture. Et pourtant, tant de points communs, mais aussi des points qui nous séparent. Oui. Comment vous le vivez, ces moments-là?
Mais c'est vrai que je suis venue en France. Moi, d'abord, chez nous, à la maison, quand j'étais petite fille, on aimait la France. Mes parents étaient venus en 1937 pour leur voyage de noces, qui était très, très rare à l'époque. Et même mon arrière-arrière-grand-père, j'avais vu dans son... Parce qu'il y a un livre qui avait été publié sur lui, qu'en 1850, à peu près, il était venu en France. Et donc, chez nous, on aimait la France. Et par conséquent, ça a été facile ensuite de me dire, c'est évident que mon premier voyage à l'étranger, en dehors des États-Unis, bien sûr, c'est à trois quarts d'heure de chez nous, les États-Unis, la frontière est à côté, et bien, je vais aller en France. Et j'avais 18 ans. Et ça a été pour moi tout de suite plus ou moins un choc culturel, c'est vrai, mais en même temps, pour moi, ça a été le grand amour tout de suite. Mon rêve à moi, il n'a jamais été américain, il était français justement, mon rêve. Alors, donc mon rêve, il est français, je l'ai à peu près réalisé. Pas totalement, parce que j'aurais aimé faire la souveraineté du Québec, mais c'est peut-être la génération qui va nous suivre, qui va y arriver.
Donc vous vous intégrez facilement, vous avez beaucoup d'amis français?
Beaucoup, beaucoup d'amis dans le milieu politique, parce que comme j'ai fait de la politique pendant 30 ans, mais aussi des amis, je sais pas moi, le vice-président d'Arte, Jérôme Clément, c'est mon ami, j'ai donc des amis dans pas mal tous les secteurs. Et je les vois, ils sont accueillants, contrairement à ce qu'on peut dire et penser des Français, ils nous invitent chez eux, ils sont très heureux de nous recevoir, de nous voir, oui. Moi je me sens très à l'aise et j'ai pris la nationalité française, donc il y a 4 ans.
Eh bien, nous sommes très heureux.
Je suis donc française.
Donc, vous partagez votre temps entre la France et le Québec. Alors, comment vous vous organisez? Combien de temps vous passez en France? Combien de temps au Québec?
Je passe quand même plus de temps au Québec maintenant que j'enseigne, mais j'enseigne qu'à la session d'hiver, donc de janvier à mai chez nous, ce qui me laisse du temps pour venir en France à l'automne. Et puis, je reviens donc toujours aussi après la session à l'Université de Montréal. Je viens à Lyon, donc à l'Université Jean Moulin, Lyon 3, pour donner quelques semaines d'enseignement aussi. Alors, à l'automne, j'y viens pour faire toutes sortes de choses, pour faire des recherches, pour faire des rencontres, pour justement faire un peu de politique, même si je ne suis plus en politique active directement. Je n'ai pas de mandat au Parti québécois, mais je suis dans une mouvance, disons, qui est celle-là. Alors, je reste donc près de ce dossier France-Québec dans sa dimension politique.
Donc, voilà. Vous êtes toujours très active. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la politique internationale? Dernièrement, la Birmanie, la Chine. Comment vous sentez les relations aujourd'hui?
Eh bien, je pense que c'est sûr qu'il y a un changement fondamental qui est en train de se produire. C'est bien évident. Je pense que l'Occident va devoir prendre la mesure, en effet, de ce qui se passe en Asie en particulier. Je pense évidemment à la Chine, à l'Inde, mais aussi plus près de chez nous, au Brésil, ce qu'on appelle le BRIC maintenant. Alors, il est certain, et moi, ça m'intéresse dans la dimension diversité culturelle et linguistique. Je pense que l'émergence de tous ces nouveaux pays sur la scène internationale devrait, je le souhaite en tout cas, rendre le monde plus multilatéral qu'il ne l'a été depuis, disons, la chute du mur de Berlin, et que l'hyperpuissance américaine est certainement en train de perdre du terrain, ça c'est sûr et certain. J'espère que l'Europe émergera comme aussi une puissance politique, ce qu'elle n'est pas. Actuellement, elle est une puissance économique, mais elle n'est pas une puissance politique. Mais il est certain que ce qui est nouveau, ce qui est vraiment dérangeant aussi, ou troublant, on le sait, parce que les emplois se perdent dans nos pays, se délocalisent, je veux dire, dans les pays en développement. Mais le bon côté des choses, j'espère que le monde sera plus équilibré. Je le souhaite, ce monde davantage équilibré. Et quand je parle de culture et de langue, eh ben, je souhaite aussi, nous, on est des résistants en Amérique du Nord, c'est sûr, on est les seuls de notre genre, mais je regarde au-delà des États-Unis et de l'Amérique du Nord et ce que je vois en Amérique latine, particulièrement au Brésil, qui a conscience de son destin, qui forme pratiquement 180 millions d'habitants, je veux dire, pratiquement un continent, c'est vraiment très intéressant. Et on se sent très près, nous, de ces gens-là, parce qu'on se sent des latinos du Nord, finalement, parlant français, et puis culturellement, notre proximité avec l'Amérique latine et en particulier avec les Brésiliens sera pour nous donc un enjeu et puis pour nous un défi là, mais en même temps une formidable chance, je le crois. Mais quant au reste, c'est ça, c'est ce monde nouveau là qui est en train qu'on voit naître sous nos yeux. Mais est-ce qu'on sera capable d'y trouver chacun sa place? C'est ça qu'on saura peut-être dans 50 ans.
Alors, 2008, c'est une date importante. Nous fêtons les 400 ans de Québec. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les 400 ans du Québec?
Voilà. Alors, c'est très important pour nous parce que, d'abord, en Amérique, vous savez, quand les Européens sont arrivés, ils ont trouvé des Autochtones. Hein? Bon, aux États-Unis, vous savez qu'ils ont massacré. Il n'y en a plus. Bon, il y en a encore justement en Amérique latine, en Amérique centrale, beaucoup. Il y en a encore un peu chez nous, au Québec et au Canada. Mais quand les Européens sont arrivés, et puis que c'est quand même donc la France qui est débarquée, là, la première, en tout cas sur le continent nord-américain, les Espagnols faisant la même chose et puis les Portugais là à côté, eh ben il y a eu toute une aventure qui continue aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le sens. C'est ce dur désir de durer des francophones d'Amérique, c'est ça qu'on fête, finalement. Et cette grande aventure qui a fini mal tourner en 1760, puisque la France a perdu l'Amérique, qui aurait pu être française, c'est incroyable, mais enfin, elle aurait pu, quand on regarde les cartes et quand on regarde tous ces Français qui sont venus découvrir l'Amérique. Ils ont descendu le Mississippi, ils ont découvert l'Ouest américain, ils sont allés jusqu'aux Rocheuses. Ils étaient incroyables, alors qu'ils sortaient de la Normandie, je pense pas que ça les préparait particulièrement, non seulement à nos hivers rigoureux, mais en même temps à devenir des explorateurs et des coureurs des bois. Il y a des grands héros parmi ces Français qui sont venus et qui n'étaient pas si nombreux, parce que si vous prenez le début de la colonisation 1608, l'établissement de Champlain à Québec, dans la ville de Québec, jusqu'en 1760, il n'y en a pas eu plus de 10 000 Français qui ont immigré. Aujourd'hui, on est 6 millions au Québec. On voit l'aventure démographique, l'aventure politique qui a failli mal tourner en 1760, parce que normalement, on aurait dû disparaître, là, parce que, bon, les anglophones sont arrivés, puis sont arrivés en roi et maître. Bon, vous savez que l'histoire est écrite par les vainqueurs, non pas par les vaincus. Nous étions vaincus, la défaite et tout. Bon, et finalement, bon, par toutes sortes de choses, de façons, de manières, on a réussi à ne pas s'assimiler, à ne pas disparaître, et puis on est là. On est là, et je dirais, justement, dans l'autre langue officielle du Canada, alive and well. Alors, je pense que la culture québécoise est pleine de vitalité, pleine de créativité, c'est un fait, et que donc on a nos problèmes comme tout le monde, mais pas pire que ceux des autres, et c'est ça, d'avoir duré, d'avoir perduré.
Vous avez le sentiment que les Québécois essayent de faire la fête en ce moment, célèbrent beaucoup les 400 ans, ou c'est un phénomène qui passe finalement un petit peu comme quelque chose de normal?
Non, je pense quand même il y a un gros effort de la France d'ailleurs d'être présente, ce qui est très 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 bien. Et des régions françaises, mais aussi du gouvernement, en fait de l'État français. Il y a beaucoup d'activités franco-québécoises. Ça se passe à Québec quand même, hein. C'est ça, c'est que c'est sur le territoire de la ville de Québec, qui est une petite ville. J'espère que les gens de Québec sont pas insultés. Là, c'est ma ville natale de toute façon. J'y suis née. C'est 500 000 habitants Québec. Montréal, c'est plus d'1 200 000, puis la grande région de Montréal, c'est 3 millions. La moitié à peu près du Québec vit autour de l'île de Montréal. Mais la deuxième ville du Québec, c'est Québec. Et ça se passe là, sur ce territoire. Bon, là, on commence à sentir justement que ça peut avoir de l'intérêt pour la population, pour les touristes, j'espère, pour les Français qui viendront, on le souhaite, très nombreux aussi. On commence à avoir le sentiment là que c'est bien parti et que ce sens de la fête va se manifester là tout au long de l'été, disons. Tout au long de l'été, il va se clore d'ailleurs par la visite du président de la République, Monsieur Sarkozy, au mois d'octobre.
Un joli signe. Alors, quel regard, justement, pour terminer cette émission, portez-vous sur la France aujourd'hui?
Ça, c'est plus délicat, hein, parce que je peux bien parler du Québec et tout. Disons, moi, de toute façon, je vous l'ai dit, j'aime la France, j'aime les Français, donc je suis chez moi ici. Je pense, c'est sûr que la France a besoin de réformes, on a tous besoin de s'adapter, c'est la mondialisation. Il faut pas perdre son âme dans tout ça, il faut pas perdre sa culture, sa langue, son identité, mais en même temps, donc, il faut être très ouvert au monde. Bon, alors, c'est ce que la France essaie. Moi, quand on me dit, en tout cas, je vais vous dire une chose, quand on me dit que la France est en déclin, je dis non, la France est en crise. Je ne crois pas que la France soit en déclin. Et je crois qu'on est tous dans le même bateau, très franchement. Puis au Québec aussi, hein, il y a des impasses, il y a des difficultés économiques comme politiques et tout ça. Chez nous, l'enjeu national demeure extrêmement important entre ceux qui veulent faire la souveraineté, ceux qui ne veulent pas. On est à peu près toujours divisé en deux. Ici, c'est entre la gauche et la droite. Alors bon, on a chacun nos lignes de clivage. Mais moi, je pense que la France a toujours, je le dis sincèrement, quelque chose à dire au monde et à parler haut et fort, et qu'elle a cette vocation, peut-être bien sûr dans un cadre européen, comme nous dans un cadre nord-américain, mais au-delà de ça. Et au-delà de ça, ça veut dire en francophonie, avec nous, tous les francophones, tous ceux qui parlent français, parce qu'on a souvent dit au Québec, la langue française n'appartient pas aux Français, elle appartient à tous les francophones. Et cette grande langue, moi je souhaite qu'elle demeure une grande langue internationale, une grande langue universelle, avec 7, 8, 9, 10 autres grandes langues du même type, mais qui expriment, je veux dire, une réalité, une façon de voir les choses, une façon de, d'être, de vivre.
Une jolie phrase de fin. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un grand merci à Madame la Ministre Louise Baudouin. Je rappelle que vous avez été notamment directrice des affaires françaises en 81, déléguée générale du Québec à Paris en 84, ministre de la Culture et des Communications en 95. Alors voilà, nous arrivons à la fin, mais nous souhaitons un très bon anniversaire à nos chers compatriotes québécois. Et n'hésitez pas à télécharger cette émission gratuitement sur canalacademy.com.